La science et nous. Une émission proposée par Sylvie Vauclair.
Je suis à nouveau cette semaine avec Éric Sureau, qui est physicien, professeur émérite à l'Université de Toulouse, membre honoraire de l'Institut universitaire de France, et qui a encore bien d'autres titres, responsabilités dans le cadre des recherches scientifiques en France et aussi internationales. Nous avons parlé la semaine dernière des limitations intrinsèques du calcul numérique. Alors il faut bien comprendre que ce calcul numérique, les ordinateurs, l'utilisation des ordinateurs pour résoudre toutes sortes de problèmes, D'abord, c'est évidemment très utile, ça permet d'aller très vite, de faire des calculs qu'on ne pourrait jamais faire à la main. Et en général, que les résultats, c'est quand même assez fiable. Sauf qu'on s'aperçoit qu'il peut y avoir quelques erreurs dues à des problèmes d'arrondi de nombres à l'intérieur de l'ordinateur qui fonctionne dans ce qu'on appelle un système binaire, comme un interrupteur. Soit 0, soit 1. Et donc, il faut en être bien conscient et puis les étudier, ces erreurs, pour être sûr que ça ne conduit pas à des résultats erronés. On a vu aussi que l'important, c'est la reproductibilité des résultats. Donc, il faut être capable de retrouver les mêmes résultats, que ce soit des résultats de calcul, que ce soit des résultats dans des domaines de recherche scientifique, mais à base de calcul ordinateur. Cette semaine, on va parler du fait qu'il peut y avoir aussi des erreurs qui viennent d'ailleurs, qui viennent de l'extérieur, en particulier qui nous tombent du ciel, puis les rayons cosmiques. Donc on va parler de ce que c'est que les rayons cosmiques et pourquoi le rayon cosmique pourrait modifier le fonctionnement d'une voiture autonome et par exemple la conduire accélérée au lieu de freiner ou des choses comme ça. Éric, bonjour à nouveau. Est-ce que tu peux nous expliquer tout ça ?
Bonjour Sylvie. Oui, alors c'est un sujet extrêmement important à mon sens, le cas des voitures autonomes, de façon générale le cas de tous les systèmes électroniques qui sont susceptibles donc d'être heurtés par un rayon cosmique. Alors un rayon cosmique, c'est un terme un peu générique pour tout un tas de particules qui nous tombent sur la tête au sens propre, donc on est presque revenu au temps des Gaulois.
Je peux peut-être en dire un petit mot parce que c'est un peu mon domaine.
Absolument.
Donc en fait, les rayons cosmiques, ce sont des particules qui sont très 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 rapides, qui voyagent dans la galaxie, qui vont partout, donc en particulier qui peuvent arriver sur la Terre. Mais quand elles arrivent sur la Terre, elles arrivent sur l'atmosphère terrestre et elles interagissent avec des particules de l'atmosphère terrestre. Et à ce moment-là, on a ce qu'on appelle une grande gerbe ou une grande douche de particules qui arrivent sur la Terre. Et on peut dire que nous sommes tout le temps pénétrés par, même nous, nos corps, tout le temps pénétrés par ces particules. Donc nous, a priori, ça ne nous fait pas grand-chose, mais justement, on revient au véhicule automatique où ça peut faire quelque chose de grave.
Oui, alors, le problème est connu, en fait, vis-à-vis de l'électronique de façon générale depuis plus d'un demi-siècle, notamment au niveau des satellites. Alors, il y a des stratégies, évidemment, pour essayer de se protéger de ces choses-là, de faire du blindage, mais l'exercice a des limites. Et donc, aujourd'hui, le problème est amplifié par la miniaturisation. Donc, si vous avez un système, disons, électronique avec plusieurs, tout un tas de petits éléments, qu'il y en a un qui est perturbé par un rayon cosmique, on peut espérer que le système va, entre guillemets, retrouver son état sans trop de problèmes. Le problème aujourd'hui, il est lié à la miniaturisation. Donc si vous n'avez plus qu'un seul processeur, mettons dans le cas d'un ordinateur, donc juste un seul élément, une perturbation risque, disons, d'avoir des conséquences sur l'ensemble du système. Alors ce type de problème porte un nom, ça s'appelle des erreurs molles, soft errors, par opposition à ce qu'on connaît déjà depuis un certain temps, notamment dans les satellites, je l'évoquais, où il y avait un circuit qui était grillé par un rayon cosmique. Ça, d'une certaine façon, c'est pas très grave, enfin c'est embêtant, mais c'est pas grave au sens où on le voit, on se rend compte que le système électronique est mort, et donc on fait avec. Les erreurs molles, c'est des erreurs qui vont faire changer l'état du système, mais dont on ne se rend pas compte. Pour revenir sur le cas des ordinateurs, c'est par exemple un bit 01, donc un interrupteur, qui va s'éteindre au lieu de s'allumer ou s'allumer au lieu de s'éteindre. Ce n'est pas forcément évident de se rendre compte que ça s'est produit. Mais ça peut avoir des conséquences. Et ça peut avoir des conséquences dramatiques sur le fonctionnement d'un système. Alors, il y a un exemple assez connu qui date il y a maintenant, je dirais, une quinzaine d'années. Vous avez tous sans doute déjà utilisé un système Windows et de temps en temps, le système Windows se plantait et il y avait les fameux écrans bleus. Et donc, il y a eu des études qui ont été faites là-dessus par Windows, enfin par la compagnie Microsoft. Et ils avaient observé que, je crois, une dizaine de pourcents de leurs erreurs de ces écrans bleus étaient liées à des cosmiques. Les solutions sont essentiellement, dans ce cas-là, des solutions logicielles. Donc, on a mis en place des systèmes pour corriger ce genre d'erreur. Donc, aujourd'hui, il y a moins, je pense, enfin, j'espère, d'écrans bleus. Mais le problème existe toujours dans l'absolu. Et donc, lié à la miniaturisation, on n'a pas forcément complètement gagné. Donc, on sait ça. On sait qu'il y a ce type de problème. Et ça peut avoir des conséquences, ou pas.
Ça, c'est le hasard.
Ça, c'est le hasard. Alors justement, c'est intéressant, Sylvie, que tu mentionnes le hasard, parce qu'on est fondamentalement dans un hasard absolument intrinsèque, lié par exemple à une désintégration radioactive suite à un cosmique qui est venu frapper une particule dans l'atmosphère. On connaît très bien la radioactivité, tout le monde a entendu parler par exemple de la datation des objets anciens par le carbone 14, et on sait très bien qu'il y a une durée de vie d'un échantillon, etc. Mais ce qu'on ne sait pas, du tout, c'est au bout de combien de temps un noyau donné va se désintégrer. Donc quand il y en a un gros paquet, on sait qu'au bout de quelques milliers d'années, par exemple, c'est le cas du carbone 14, c'est 6000 ans à peu près, au bout de 6000 ans, il y a la moitié qui va se désintégrer, mais par contre, on ne saura pas quels noyaux se sont désintégrés. Donc si vous en avez qu'un, vous ne savez pas.
On connaît le fonctionnement statistique de la globalité d'un système, mais on ne sait pas ce qui se passe pour un des éléments.
Exactement, hein? Exactement. Et là, on est en train de parler de un. C'est-à-dire, on est en train de parler d'un rayon cosmique qui vient taper sur un noyau, par exemple. Hein. Et donc, ce noyau va se désintégrer, mais on ne sait pas quand. Donc, date de hasard absolu. Ce n'est pas du tout le même hasard que le hasard d'une pièce de monnaie qu'on lance en l'air. Une pièce de monnaie qu'on lance en l'air, si on fait un gros effort, on peut décrire très précisément son mouvement, y compris la résistance de l'air, etc. Donc, là, c'est du hasard. Un faux hasard, c'est un hasard d'ignorance, de convenance. C'est pas du tout intrinsèque, c'est pas du tout la même nature de hasard.
En fait, ce qu'il faut retenir, c'est quand même plutôt fiable, c'est une petite probabilité, très petite probabilité d'avoir un problème, mais le problème existe, et le problème, on ne le maîtrise pas.
Absolument. Donc c'est vraiment une question de principe, c'est-à-dire dans le principe, Il y a ce risque, donc comme son nom l'indique, c'est un risque. Ça ne veut pas dire que ça va arriver, ou tout au moins, ça veut dire qu'on ne sait pas quand ça va arriver. Donc c'est un peu le principe des assurances, c'est-à-dire on va protéger le système, un système, qu'il soit électronique ou autre, on va le protéger pour éviter, entre guillemets, le problème. Mais on sait que c'est possible, et comme tu le dis parfaitement, dans l'ensemble, ça ne se passe pas. Heureusement, quand on prend une assurance pour la voiture, heureusement, toutes les fois qu'on prend sa voiture, on n'a pas un accident. C'est un peu pareil. C'est le même type de situation. Et puis, un jour, il y a un accident. Ou pas. On est dans la même situation. Le calcul va bien fonctionner, en général, ou pas. Une fois de temps en temps, on risque d'avoir un problème. Et effectivement, pour revenir sur la voiture autonome, si au lieu de freiner parce qu'il y a un poids lourd qui freine devant, elle accélère, c'est embêtant.
C'est embêtant.
Mais bon, ça n'arrivera sans doute pas, ou peut-être pas, je ne sais pas comment le dire.
Et il nous reste un petit peu de temps pour dire quelques mots sur l'intelligence artificielle, donc qui ne fonctionne pas comme un ordinateur, mais quand même, ce n'est pas totalement éloigné. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur ce que tu penses de l'intelligence artificielle et de...
L'intelligence artificielle, à la base, c'est un calcul. C'est un calcul sur ordinateur. Alors c'est un calcul un peu particulier parce que c'est un calcul qui se fonde sur des statistiques. Essentiellement des statistiques de proximité. On l'a tous expérimenté quand on envoie un SMS par exemple. Le soir on écrit bonne, il vous propose soirée. Donc il y a une proximité, là, qui est en l'occurrence liée à l'heure à laquelle on écrit le message. L'intelligence artificielle, notamment les intelligences génératives comme ChatGPT, vont fonctionner à la base sur une proximité de mots. Par exemple, on dira petit pousset, petit et pousset sont proches, mais grand pousset, c'est absolument pas proche. Les deux mots sont pas proches. Donc on fonctionne là-dessus et la distance, en fait, est estimée en faisant des statistiques sur un nombre incalculable, c'est le cas de le dire, de données que la machine a intégrées. Donc elle s'est rendue compte que les mots étaient ensemble ou pas. Mais on est quand même dans du calcul. Alors on est dans du calcul statistique, on sait qu'il y a des limitations. Qui sont de toute façon les limites du calcul. Là encore, on va développer des stratégies pour contourner le problème, des stratégies techniques. Ça n'éliminera pas des problèmes potentiels comme ceux qu'on a évoqués précédemment. Alors, par ailleurs, un point important à mon avis, c'est de ne pas oublier que les intelligences artificielles, certes, sont des machines, mais derrière ces machines, il y a des concepteurs. Donc, il y a un utilisateur, nous. Il y a une machine, on va dire elle, entre guillemets. Mais peut-être surtout, il y a un concepteur. Et le concepteur, c'est celui qui va donner à manger à la machine avec tous les biais que ça suppose.
Donc, avec les textes choisis, par exemple, avec et les tout textes ça. Choisis. Et donc, ça peut complètement biaiser.
Ça peut être biaisé. Je pense que c'est même le danger principal, c'est celui-là, oui. auquel on ne pense pas forcément, parce qu'on pense machine, on ne pense pas...
Il y a des gens derrière.
Personne, on ne pense pas humain.
Je crois qu'effectivement, il faut avoir ça en tête. Faut avoir ça en tête quand on a des réponses, des solutions proposées par des intelligences artificielles. Il faut vraiment avoir en tête que ça peut être biaisé. Donc, il faut vérifier. Il ne faut pas s'appuyer uniquement sur ça. Il faut aussi voir ailleurs. Eh bien, on arrive à la fin de ces deux émissions. Et merci beaucoup, Eric, pour toutes ces analyses des problèmes qui peuvent se poser dans les calculs et auxquels on est beaucoup confronté, parce que maintenant, les calculs, on les trouve partout. Tout le monde a des ordinateurs chez lui, des calculettes, des téléphones portables qui font tout aussi. Donc, je crois que c'est vraiment important d'avoir conscience de tout ça, mais en gardant toujours à l'esprit que, quand même, d'une manière générale, ça fonctionne bien. Je crois que c'est important.
Absolument.
Alors, merci beaucoup, Eric, et bonne continuation.
Merci, Sylvie.